Le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, a tenu ce matin sa traditionnelle conférence de presse de la rentrée après la pause estivale. Monsieur Pedneau-Jobin, bonjour.
Bonjour.
D'abord, monsieur le maire, vous avez passé de belles vacances. Vous avez eu la chance de décrocher, j'espère, un peu avec cet été-là qui a complètement été à l'opposé du printemps qu'on a connu.
Ben oui, c'est comme si la nature avait voulu s'excuser du printemps qu'on a connu. Ça fait qu'on a eu un bel été ensoleillé. Ça fait que oui, j'ai pris des longues vacances parce que, disons, que les derniers mois ont été assez intenses. Puis ça a été un bel été très occupé à Gatineau. Moi, j'étais surtout ici, là, mais il y avait des activités partout en ville, là, mm-hmm. L'animation culturelle un peu partout, aussi, la plupart du temps gratuitement. Là, c'était vraiment le fun. Ça fait qu'on a eu un bel été en couleur à Gatineau.
Il y a quand même certains dossiers qui ont monopolisé un petit peu le temps de vos vacances. Là. Je pense notamment aux poissons morts, là, la crise des poissons morts. Et la façon dont le gouvernement a géré la crise, ça a été vivement critiqué, donc notamment au niveau du manque de communication. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, M. Pedneau-Jobin, aujourd'hui?
Ben c'est ça. Moi, c'est un des sujets qui m'a forcé à sortir de vacances là, parce que c'est inquiétant d'abord. Là, c'est la nature qui dit il y a quelque chose qui se passe qui devrait pas se passer. Puis il y a eu plusieurs épisodes là, et pour moi, c'est important que le travail m'assurer que le travail se fasse autant de la part de la ville parce que nous, on a partagé beaucoup d'informations avec le ministère de l'Environnement très rapidement. Là, tu sais, y avait-tu des quelles sont les entrées possibles de produits chimiques dans la rivière, quelles sont les entrées de matériel qui viennent de différentes usines, etc. Ça fait que ça m'a permis de parler aux équipes, voir ce qu'on faisait. J'ai parlé au ministre Charrette, au ministre Lacombe. Moi, je pense que la communication aurait pu être meilleure de la part du gouvernement, surtout que quand j'ai parlé au ministre Charrette, il était très rassurant quand il parlait de tout ce qui se passait sur le terrain. La faune était là, l'environnement était là, les équipes étaient, le travail se faisait. Puis moi, ma perception, c'est que ça s'est pas su assez là, qu'ils agissaient vite. Mais c'est bien dur pour moi de les critiquer parce que je suis pas dans leurs souliers, je sais pas ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent pas dire, dans quel cadre ils travaillent. Mais disons que l'histoire a mieux fini, où là, il y a une enquête en cours. Moi, j'ai parlé aux gens de Brookfield lundi, ouais. Qui tenaient à me voir rapidement pour dire que eux, ils sont en train de regarder aussi de leur côté leurs propres éléments de production. Y a-t-il quelque chose qui aurait pu causer ça? Ils ont bien hâte que le gouvernement du Québec, après l'enquête, puisse partager de l'information avec eux. C'est une entreprise de chez nous qui veut bien agir pour l'environnement. Ça fait que ça aussi, ça m'a rassuré. Là. Ils ont vraiment une approche là, de comme on les connaît, là, qui ont donné accès aux sentinelles de l'Outaouais. Ils ont donné accès à plusieurs groupes qui voulaient à regarder ce qui se passait autour de leurs installations. Ça fait que j'ai bien confiance qu'on va comprendre vraiment ce qui s'est passé de façon très précise.
Ce qui arrive, c'est qu'on a été tenu dans l'ignorance pendant un certain temps. Au moins, la Ville a joué un rôle assez important en rassurant les citoyens, en leur disant que le réseau d'eau potable, par exemple, n'était pas touché, donc il n'y avait pas de risque au niveau de la consommation. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des sanctions qui sont méritées?
C'est souvent ce qu'on oublie dans une situation de crise, c'est que même si on n'a pas la réponse, dans le cas des poissons, c'était clair, on ne sait pas ce qui l'a causé. Mm-hmm. De dire le plus rapidement possible ce qui n'est pas un problème,
oui.
Ça peut rassurer les gens. Puis comme ça. Vous l'avez dit, à partir du moment où le réseau d'eau potable est sécuritaire, ça rassure. Dès qu'ils ont su que c'était pas des produits chimiques, ben ça aussi c'est rassurant. T'sais, même si on est encore inquiet parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on sait que c'est pas des éléments qui sont parmi les plus dangereux. Mais encore une fois, je suis un peu mal placé pour faire leur procès là, parce que je sais pas dans quelles conditions ils travaillaient. Mais nous, on a essayé comme ville d'être le plus rassurant possible.
Autre dossier également qui retient l'attention et qui continue de faire réagir, c'est cette fameuse zone d'intervention spéciale pour limiter le développement jusqu'à nouvel ordre à la suite des inondations. Monsieur le maire, est-ce que vous avez l'impression que ça a été clarifié, qu'on a fait les ajustements nécessaires jusqu'à présent?
Oui, du point de vue de la ville, mais il y a une grosse nuance qui va suivre. Mmh. Nous, on a le but de la zone, là, c'est de dire là où il y a eu de l'eau en 17 et en 19, ça devient une zone où on limite un peu le développement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de construction possible. Les gens peuvent rénover et faire un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de construction, reconstruction possible. Le but de cette zone-là, c'est que le gouvernement dit nous, on veut geler ça un peu pour qu'on se donne le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire dans cette zone-là. Fait que nous, on a réussi à obtenir que la zone soit vraiment l'endroit où il y avait de l'eau, alors que la première version n'avait pas de bon sens. Là, ça dépassait largement les secteurs mm-hmm. qui avaient été touchés dans Gatineau. Là où il y a une difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui nous ont demandé d'être exclus de la zone parce que leur maison n'avait pas eu de dommages, parce que leur maison était au sec, mais souvent, la maison était entourée d'eau. Là. Ça fait que si le terrain, en tout ou en partie, était sous l'eau, ces gens-là ne pourront pas être retirés de la zone. Là. Ça, ils font partie du secteur où le gouvernement se questionne. Puis le critère principal du gouvernement du Québec, c'est y avait-tu de l'eau dans cette zone-là? Puis même si la maison est au sec, on n'a pas le choix de dire il y avait de l'eau dans la zone. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus parce qu'on va être obligé de les garder dans la zone.
Les garder dans la zone, mais là, on s'entend qu'il y a une réflexion majeure qui s'impose sur l'ensemble de l'œuvre, mais également pour les cas précis.
Bien, c'est là où c'est difficile. Puis vous avez raison, il faut aller à deux vitesses. Ça prend une réflexion générale. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces zones-là? Est-ce que les gens peuvent y habiter? Ils habitent à quelles conditions? Ça prend quelles règles pour que les maisons soient protégées puis pour pas qu'on dépense à chaque fois qu'il y a des inondations pour compenser des gens? Ça, c'est ce qui va prendre plus de temps. L'autre vitesse, c'est que nous, ce qu'on aimerait, c'est que dans certains cas, puis je vais donner un exemple, on a une rue où au bout de la rue, il y a une espèce de creux, ce qui fait que l'eau de la rivière passe par ce creux-là puis inonde 4-5 maisons. Ben, durant la crise, on a pu, parce qu'on était en mesure d'urgence, combler ce creux-là. Est-ce qu'on pourrait avoir une permission du gouvernement du Québec de rendre ça permanent, par exemple, parce que là, bon, c'est juste 5-6 maisons, mais c'est toujours bien 5-6 personnes qui vivent en paix, là, avant le printemps prochain. Ça fait que ça aussi, on aimerait être capable de prendre des mesures un peu ad hoc, mais ça, je sais pas du tout si le gouvernement va accepter. Moi, j'ai parlé au ministre responsable de la région, j'ai parlé au député Lévesque. Ils s'y comprennent ça, puis ils voudraient qu'on le fasse, là, en principe, Mais c'est des enjeux légaux, ce qu'on est en train de regarder ça, si on ne pourrait pas avoir deux vitesses. Là.
Bien, c'est certain qu'on va continuer les discussions, possiblement cet automne, en lien avec le suivi sur les inondations également là, de votre côté.
Oui, oui.
Dans un autre dossier aussi qui a retenu l'attention cet été, et on s'entend que le 15 septembre prochain, c'est la date d'entrée en vigueur de la nouvelle politique sur la gestion des déchets. Si on se fie à ce qui s'est passé avec De Richebourg, là, notamment les retards dans le ramassage des déchets, est-ce que c'est possible de rétablir une certaine confiance là, à ce niveau-là?
Oui, bien d'abord, la situation est assez stabilisée. Là, au moment où on se parle, ça va bien. Là. Il reste un enjeu important de ressources humaines pour De Richebourg, mais ce qui a, l'été a commencé plus difficilement. On a eu des gros échanges avec eux là, pour s'assurer qu'ils respectent leur contrat. Au moment où on se parle, ça va bien. Donc, on n'a pas d'inquiétude pour le 15 septembre, mais on va voir que ça va rester un enjeu. On l'a vu à Lévis. Là, ils vivent à peu près la même affaire que nous, mais avec une autre entreprise. Québec a eu les mêmes problèmes de ressources humaines. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais il faut que De Richebourg respecte son contrat. Puis comme c'est là, on a les assurances qui vont le respecter.
Pour éviter que ça se reproduise, évidemment, à quel point la ville va être tolérante? Là, c'est ça la question qui se pose, M. le maire.
Oui, ben on l'a pas été beaucoup. Puis tu sais, faut pas oublier les l'impact sur le monde. Tu sais, surtout l'été, là, t'es assis sur ton balcon, puis tu vois un tas de déchets en face.
C'est pas,
là, c'est pas très intéressant. Là. Ça fait que ça, nous, on veut pas être tolérant. Là, puis faut voir avec De Richebourg si on est capable de faire des arrangements pour que nous et eux on collabore pour que ça fonctionne. On veut pas nier non plus les problèmes qu'ils ont, mais ils ont un contrat à respecter.
Pour améliorer les pratiques également. Le temps file, Monsieur le maire. Je voulais vous parler de l'automne qui s'annonce assez chargé également de votre côté. Je pense notamment au budget, aux discussions sur le fameux pacte fiscal, le suivi sur les inondations qui ont causé des retards dans certaines opérations régulières, mais il y a aussi les élections fédérales qui arrivent à grands pas. Ottawa qui a confirmé l'investissement pour le tramway à Québec. À Gatineau, il y a seulement le gouvernement Legault qui a confirmé son intention de participer. Alors, j'imagine que vous attendez votre part du gâteau du fédéral, là.
Oui, puis les grands projets de Montréal puis de Québec étant un peu réglés, là, étant derrière nous, je pense que ça nous mène à une bonne position. Là, vraiment, même le ministre Bonnardel, le ministre des Transports à Québec, me dit c'est le premier dossier qui est sur mon bureau. On a un engagement très ferme du gouvernement du Québec, puis ça, c'est bon parce que c'est 60% de la facture, puis ça nous aide avec nos discussions avec Ottawa. Ce qu'il va nous falloir, c'est de la flexibilité. Moi, les citoyens qui m'interpellent et qui ne comprennent pas trop pourquoi c'est compliqué, c'est que le programme fédéral est très bon pour les très grandes villes, il est bon pour les petites villes, mais il n'est pas bon pour les villes moyennes comme nous. Parce qu'ils payent en fonction de l'achalandage, donc un peu en fonction de la population. Puis nous, notre projet, c'est l'équivalent du prolongement d'un projet d'une zone métropolitaine, donc qui est bien plus grande que juste Gatineau, là. Ça fait qu'on est, on se retrouve dans une situation où l'argent qui nous reviendrait, c'est à peine le quart de ce dont on a besoin. Puis c'est là où ce qu'on va demander, nous, à tous les partis politiques fédéraux, c'est êtes-vous capable de mettre de la flexibilité dans des programmes? Dans certains cas, ajouter de l'argent, puis on n'est pas dans du superficiel. On parle de transport en commun, de qualité de vie des gens qui passent moins de temps pris dans le trafic, d'entreprises qui ne voient pas leur monde arriver en retard, puis d'environnement, évidemment. Ça fait que moi, je pense aussi que ça va prendre plus d'argent. Ça fait que ça va être des gros débats. Pour Gatineau, ça va être le gros dossier d'élection fédérale.
Qu'on va suivre, évidemment. Et en terminant, un mot, M. le maire, sur l'avenir du quotidien Le Droit. Vous en avez parlé au cours des derniers jours, là, la crise qui sévit dans le monde des médias. Quel est le rôle que la Ville peut jouer là-dedans, malgré qu'on sait que ça va revenir possiblement au secteur privé de reprendre la balle au bon, là?
Ben moi, je pense que comme politicien, j'ai un mot à dire sur le fait que ça n'a pas de bon sens de ne pas avoir de quotidien dans une ville comme nous. Là, j'ai parlé au maire de Sherbrooke hier. Les maires de toutes les villes concernées, on se parle. T'sais, on est tous d'une même situation. On a besoin de médias forts pour avoir une vie municipale forte, une vie démocratique forte, savoir ce que nos athlètes, nos artistes font. T'sais, ça n'a pas de bon sens de ne pas avoir de médias. La solution, par contre, n'est pas tellement de notre côté. C'est plutôt ceux qui ont à la fois la capacité légale d'adopter des lois, puis qui ont l'argent aussi. Ben c'est Québec, pas Ottawa. Ce qui est dur, c'est qu'il faut changer le modèle d'affaires. Ça peut pas juste chercher un annonceur de plus. Là. Il faut que ça soit le modèle qui change. Il faut que la personne qui produit de l'information qui a de la valeur soit payée pour ou l'entreprise. Puis comme c'est là, ils sont pas. T'sais, tout le monde reprend la nouvelle, puis personne ne paye. C'est ça qu'il faut trouver une façon de régler. Ça sera pas simple, mais moi, en tout cas, moi, je vais prêter ma voix au droit pour qu'on trouve des solutions.
On a eu de l'intention aussi, là, de l'intérêt, notamment au niveau de Québécois. On a Cogeco également, qui est propriétaire du 104.7 Outaouais. Si c'est Cogeco, par exemple, qui faisait l'acquisition du droit, est-ce que ça changerait votre perception des choses, M. le maire?
Ben en fait, le problème pour moi, c'est plus Québécois. Okay. Si c'est un n'importe quel autre partenaire, à peu près, serait bienvenu. Mais si c'est Québécois, ça fait une concentration de la presse qui est hallucinante au Québec. Moi, je pense que ça, c'est pas une avenue intéressante du tout. Là, il y a peut-être une mécanique qui permettrait de faire je sais pas quoi, là, mais à première vue, là, on aurait comme un propriétaire d'à peu près tous les médias au Québec, tous les médias d'importance au Québec. Pour moi, ça n'a pas de bon sens.
Si c'était Cogeco qui faisait l'acquisition.
Ben, Cogeco, j'ai moins de problèmes dans la mesure où on a besoin d'une diversité de voix. Les médias, ça peut pas, ils peuvent pas tous avoir le même patron. Donc, si c'est Cogeco, c'est un partenaire valable. Puis c'est pas que j'aime pas Québécois, c'est une entreprise respectable, mais c'est la concentration qui devient dangereuse à un moment donné. Là. Ce qui fait que les médias donnent que les citoyens ont une bonne perception de ce qui se passe, c'est quand ils peuvent s'alimenter à plus qu'une source, parce qu'un journaliste a une façon de voir, l'autre en a une autre, l'autre en a une autre. Les patrons de presse ont chacun leur angle. S'il y a juste une personne, pour moi, ça aide pas la démocratie, en tout cas. Là.
Ça le mérite d'être clair. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre temps et on se retrouve à la rentrée.
Merci beaucoup.
Alors, Maxime Penneau-Jobin, maire de Gatineau.